Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence, merci d'être venu donc pour cette nouvelle édition du Festival Raison d'agir. Tout d'abord, voilà une petite présentation. Donc, je voudrais remercier évidemment tous ceux qui viennent, je vous le disais, à différents titres. Le festival, c'est toujours l'occasion de réunir à la fois des gens qui viennent au titre de chercheurs, au titre de militants, au titre de citoyens. Et puis, c'est aussi l'occasion chaque année de réunir également les étudiants qui viennent de différentes villes, donc ceux de Poitiers, évidemment, parmi lesquels les étudiants de la socio qui contribuent à l'organisation de ce festival et qu'on remercie énormément, mais également les étudiants de Limoges qui, cette année, viennent partager, présenter leur travail, et puis également les étudiants d'Amiens qui font le déplacement aussi et qu'on est très heureux d'accueillir tous ensemble pour favoriser ces moments d'échange. Un petit mot peut-être sur cette édition, donc sur jeunesse au pluriel, nos futurs. Le pluriel n'est pas un hasard, justement l'idée c'est de profiter de cette occasion, de ce festival pour déconstruire quelque chose qu'on a peut-être en tête, mais qu'on n'a pas une jeunesse qui serait homogène. On a toujours, parmi nos interconnaissances, ou tout simplement l'idée qu'on peut en avoir, des jeunes qui naissent vieux et puis qui vont rester plutôt dans une idée conservatrice, dans un monde social qui leur convient, et puis d'autres qui vont essayer de revendiquer un certain nombre de choses. Ça va être également la possibilité de comprendre quelles sont les formes d'engagement des jeunesses, de ces différentes jeunesses, et puis d'essayer de saisir justement quels sont les facteurs de ces mobilisations, quelles sont les formes de mobilisation. On pense toujours en premier lieu aux mobilisations partidaires, à l'engagement dans des partis politiques, mais on va voir aussi qu'il y a toutes les dimensions contre-culturelles, les formes d'engagement. Donc cette année, on parlera notamment des ZAD, des formes contre-culturelles. Et puis, c'est aussi le moment d'essayer de faire le lien avec des choses plus générales, par exemple une table ronde sur les formes d'éducation, et puis comment est-ce que cette massification de l'enseignement supérieur, un ajustement qui va être lié à des attentes plutôt patronales, comment est-ce que toutes ces choses plus structurelles vont transformer aussi les formes d'engagement de la jeunesse, les formes politiques d'engagement dans un sens très large. Voilà, je ne m'étendrai pas davantage. Un petit point peut-être, on a une modification de programme qui s'est annoncée pour jeudi en raison de la journée de mobilisation. Donc pour ceux qui seront là toute la semaine, jeudi la table ronde ne commencera pas à 14h comme c'était initialement prévu, mais à 13h pour terminer à 14h30, pour permettre à ceux qui... Pardon ? À 15h, d'accord. Donc 13h-15h pour permettre à ceux qui le souhaitent de se joindre à la manifestation qui a lieu également à Poitiers. Et puis on se retrouvera sur la forme initiale du programme à 17h ici pour la conférence de Nicolas Renaï. Voilà, je vais m'arrêter là pour... on réannoncera de toute façon au fur et à mesure pour ceux qui arrivent. Et puis, je ne m'attarde pas plus et je laisse la parole aux étudiants de Limoges pour la présentation de leur enquête collective. Voilà, merci à tous.
Bonjour, merci beaucoup. Du coup, on est très content d'être accueillis ici avec nos étudiants de l'Université de Limoges. Je vais juste dire un petit mot en introduction sur le contexte dans lequel l'enquête qui va être présentée ici a été effectuée, et puis redire encore à quel point on est fiers du travail qu'ils ont pu réaliser, puis on est fiers de pouvoir les amener ici pour pouvoir présenter dans ce cadre du festival Raison d'agir. Donc en fait, il s'agit ici de présenter une enquête qui a été menée au mois d'octobre dernier pendant 8 jours sur une MJC de banlieue parisienne. Peut-être dire quand même un mot voilà, sur le cadre dans lequel on a pensé ce travail collectif au départ, même si effectivement on a eu beaucoup de surprises au fur et à mesure de la semaine, et beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément tout à fait prévues. Ça, c'est le propre du travail de terrain. L'idée de départ, c'était de faire une enquête collective avec les étudiants, de les emmener loin de chez eux pour pouvoir faire ça en continu. C'est-à-dire que ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir que l'enquête de terrain n'est pas quelque chose qui s'arrête dès qu'on a fini son enquête le soir et qu'on rentre chez soi, puisque là, les étudiants étaient logés chez l'habitant dans cette commune de banlieue parisienne, et que du coup, ce qui nous semblait important aussi, c'était de voir qu'on pouvait faire du terrain tout à un tas de moments, qu'on pouvait aussi enquêter en allant à les terrasses de café, qu'on pouvait enquêter dans les espaces publics, qu'on pouvait enquêter en se promenant dans la ville, et que du coup toutes ces petites informations, ces contacts informels qu'on pouvait nouer au quotidien, allaient nourrir cette enquête, qui est une enquête collective, ce qui est aussi une différence par rapport aux enquêtes de master, qui sont plutôt des enquêtes individuelles. Donc dès le départ, on a voulu faire cette enquête en banlieue parisienne, non pas parce qu'avec ma collègue et moi-même, Valérie Duguay, nous habitons en banlieue parisienne et que c'était beaucoup plus pratique pour nous, histoire de ne pas refaire l'aller-retour pour aller à Limoges une fois de plus, mais parce que ça nous semblait particulièrement intéressant d'emmener les étudiants ailleurs et vraiment de pouvoir s'immerger aussi, de voir ce que c'est que faire la socio-histoire d'un lieu, de s'imprégner d'un endroit qu'on ne connaît pas, de découvrir un endroit qu'on ne connaît pas, et que cette extériorité pouvait aussi nourrir un regard particulièrement aiguisé sur les tensions à l'œuvre localement. L'autre point spécifique, et puis là on rejoignait complètement un manifeste de l'association Champs Libres aux Sciences Sociales, c'était pour nous d'ancrer cette enquête dans un rapport avec un commanditaire. Alors on ne voulait pas que nos étudiants fassent des enquêtes serviles pour servir de petits experts locaux ou pour pouvoir former, je ne sais pas, à la communication ou à la gestion des ressources humaines ensuite, mais pour pouvoir les mettre en prise directe avec ce que c'est qu'une commande, comment ça se négocie et comment on fait pour qu'une commande fasse un problème sociologique, ce qui est souvent loin d'être le cas. Les questions qui nous sont posées sont rarement des questions qui permettent de se poser des questions, je pense, de manière intéressante. Et du coup, on est aussi très reconnaissant aux gens de Noisiel qui nous ont accueillis, parce qu'ils nous ont laissé quand même toute largesse, au-delà des questions qui nous étaient posées au départ, pour pouvoir les poser en des termes plus sociologiques, en tout cas, à mon avis, beaucoup plus intéressants, je pense, pour eux, pour pouvoir mobiliser les outils de la sociologie et de la science critique, pour pouvoir les mobiliser dans leur pratique au quotidien. Donc l'enquête, la commande qui nous était passée au départ, pour revenir par de là, reposait sur deux points spécifiques, qui étaient en gros, pour le dire vite, pourquoi est-ce que les jeunes ne viennent pas dans une maison des jeunes et de la culture, puisque effectivement les jeunes du quartier étaient très très peu présents, et puis pourquoi les familles aussi, puisque c'était une MJC qui a un agrément de centre social, pourquoi les familles les plus défavorisées de la commune ne fréquentaient pas davantage le lieu. Là, c'était d'autant plus embêtant pour eux que l'agrément de la CAF, si la fréquentation des familles les plus paupérisées n'est pas à un certain seuil, pouvait leur passer sous le nez. Donc, ils étaient particulièrement sensibles à ces questions. Et puis, il y avait un deuxième axe de questions qui reposait davantage sur la mixité sociale, un peu au sens large, comme ça, un peu au tout venant, qui était de dire, voilà, quand on organise des activités à la MJC, quand ça marche un petit peu, pourquoi les publics ne se mélangent pas plus? Pourquoi il n'y a pas plus de mixité, de lien social, de participation des habitants? Voilà tous ces termes qui sont très fréquents dans les politiques de la ville, et là qui revenaient très fortement dans le discours des enquêtés. Du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, voilà, c'est de s'imprégner de l'histoire locale. C'est ce qu'on fera dans un premier temps, faire la socio-histoire d'un lieu, comment il se constitue, comment les problématiques ont été amenées. Mais l'idée principale, c'était qu'on ne pouvait pas déconnecter la commune et les politiques de la ville des enjeux locaux. C'est-à-dire que plutôt que de penser, comme le font les politiques de la ville, uniquement localement les problèmes sociaux, ça nous semblait très intéressant de pouvoir les remettre dans des dynamiques plus globales pour pouvoir montrer que des lieux comme ça sont l'objet de luttes d'évitement, d'accaparement par certaines fractions de la population, que c'est un objet de tension sociale entre différents types de groupes, et que pour expliquer le fait que certains publics fréquentent peu la MJC, il faut aussi se pencher sur ceux qui l'occupent beaucoup plus que les autres, pour voir aussi que ce sont des lieux qui sont traversés par des tensions qui traversent l'ensemble du monde social. Donc plutôt que de déconnecter les enjeux globaux de la situation locale, on a essayé de raccorder tout ça à la fois à l'histoire locale et dans le cadre plus général des politiques de la ville. Donc les étudiants, ils étaient au nombre de 15, ils sont plus que 4 aujourd'hui. Enfin voilà, rassurez-vous, ils ont continué leur master, mais voilà, ce sont les 4 plus courageux qui sont venus avec nous aujourd'hui. Les étudiants à 15 ont fait plus d'une cinquantaine d'entretiens, c'est quand même relativement important dans la semaine. Énormément d'observations, de contacts informels, de discussions parfois longues et qui les ont privés de sommeil avec les hébergeants le soir en rentrant dans leurs appartements. Et du coup, qui ont considérablement nourri leur travail de terrain. Il faut ajouter à ça aussi une bonne centaine de questionnaires qui ont été passés sur place, donc ce qui permet d'avoir des résultats relativement denses et intéressants, avec l'idée, ça va être détaillé tout à l'heure, de pouvoir outrepasser les difficultés initiales qui sont de ne pas uniquement rencontrer des gens de la MJC. Forcément, si on veut interroger les gens sur pourquoi ils ne viennent pas à la MJC ou pourquoi ils s'en tiennent à distance, il faut aussi réussir à passer au-delà des réseaux initiaux qui nous étaient proposés par les membres de la Maison des Jeunes et de la Culture. Donc juste pour le dire en quelques mots, l'objet de la présentation ici n'est pas de présenter les résultats de l'enquête, ça pourra faire l'objet d'une discussion ensuite, mais plutôt de proposer la démarche et le processus d'enquête qui a été mené par les étudiants. Ce n'est pas une entrée uniquement méthodologique, mais plus une entrée sur le déroulement d'une enquête, comment on travaille avec un commanditaire, comment on fait pour qu'une commande puisse être un problème sociologique, et puis aussi parce qu'on a, dès le départ, souhaité faire que cette enquête repose sur une restitution. On trouve, à titre personnel, avec ma collègue et moi-même, que c'est souvent une question qui est relativement peu abordée par les chercheurs en sciences sociales, celle de savoir si la science est vraiment émancipatrice pour les gens qui sont les premiers concernés. Est-ce que quand on fait des enquêtes sur les personnes avec de belles visées, est-ce que c'est si agréable que ça d'entendre ça sur soi ? C'est, à mon avis, une question qui mérite vraiment d'être posée. Et du coup, on voulait que les étudiants se la posent avec nous aussi en faisant cette enquête et qu'il y ait une restitution de cette enquête, une restitution qui a été l'objet d'une belle observation des rapports de la sociologie critique avec les politiques locaux. Donc, pour le dire vite sur cette enquête, on a surtout essayé de restituer les politiques de la ville dans leur complexité pour pouvoir montrer comment ça traduit localement des rapports de force et comment aussi la conception des politiques de la ville autour de termes qui revenaient très très souvent dans les discours des professionnels, donc la sacro-sainte mixité sociale, le lien social, la participation des habitants. On avait une liste très très longue, je ne les ai plus tous en tête, mais en quoi toute cette liste aussi façonnait des habitants, c'était souvent le terme qui était utilisé, complètement déconnectés des personnalités sociales et de leurs identités sociales qui n'ont pas d'identité professionnelle, qui n'ont pas spécialement d'âge, etc., qu'on pourrait aborder unilatéralement de la même manière, et en quoi pour nous il semblait important de restituer d'où viennent ces habitants, comment ils en sont venus habiter sur cette commune, quel a été leur parcours résidentiel, où est-ce qu'ils habitent professionnellement, leur parcours scolaire, etc., pour comprendre ce qui les tient à distance ou non de la MJC, et ce qui fait que certains continuent considérablement de s'en tenir à distance, et d'autres, au contraire, se l'accapare de manière très insistante. Donc on a essayé de ne pas céder face à cette idée selon laquelle la mixité sociale serait forcément une très très bonne chose, mais qu'au contraire, la mixité sociale, quand elle est proposée comme ça par les politiques de la ville, nécessite une certaine distance critique, une certaine réflexion pour montrer que la mixité est souvent très dominante. Ceux qui ont envie de mixité sont plutôt les classes moyennes locales, mais ils ne se posent pas trop la question. C'est ce qu'on avait vu quand il y a un concert de jazz localement et qu'il n'y a que la petite classe moyenne qui fréquente ce lieu. Là, il n'y a pas de problème de mixité sociale, mais dans l'autre sens, souvent, c'était plus problématique. Donc je ne vais pas être trop long pour laisser les étudiants présenter avec les trois quarts d'heure qu'ils ont et redire à quel point on est content d'être accueillis ici pour pouvoir présenter ce travail. Ce n'était pas forcément prévu de le présenter dans ce contexte-là, mais c'est vrai que quand l'invitation nous a été lancée par Bertrand Jay, c'est vrai qu'on s'en est vite saisi parce qu'on était content que ce travail puisse exister ailleurs. Donc je vous remercie et puis je vous laisse les écouter. Allez.
Bonjour. Donc, nous allons vous présenter ici l'enquête collective réalisée dans le cadre de notre stage d'enquête, lequel est commun au Master 1 et au Master 2. Donc, nous avons effectué ce stage à Noisiel, en région parisienne, suite à une demande de la MJC de cette ville. Il s'est déroulé du 18 au 25 octobre. Cette présentation sera articulée en quatre parties. Donc, la première sera consacrée à la présentation de la ville, donc la situation géographique, le contexte historique, les environnements politiques et sociaux. La deuxième portera sur la méthodologie et l'organisation du stage. La troisième reviendra sur la manière dont on transforme une commande en problématique sociologique. Et enfin, la dernière partie reviendra sur les difficultés liées à la restitution. Donc, Noisiel est une ville se situant à une vingtaine de kilomètres à l'est de Paris. C'est une commune répartie sur 436 hectares et composée environ un tiers d'espaces verts. Elle comporte environ 16 000 habitants pour au moins 80 nationalités. Il faut savoir que comparé à d'autres villes de la banlieue parisienne comme Saint-Denis ou Montreuil, c'est une ville relativement petite et ce détail aura une importance justement au niveau de la restitution puisqu'il a fallu faire attention, comme les réseaux d'interconnaissance étaient très forts, il a fallu faire attention à ne pas nommer les gens ou donner des indices qui auraient pu permettre de faire deviner qui ils étaient. Donc c'est une commune qui fait partie de Marne-la-Vallée. Donc ça ne correspond pas à une collectivité, mais à un périmètre d'un projet d'aménagement qui comprend en fait 26 communes réparties sur 3 départements franciliens. Donc le périmètre a été divisé en 4 secteurs, dont le secteur 2, le Val-Maubuée, composé des communes de Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Logne, Torcy et Noisiel. Donc la ville par elle-même est divisée est divisé en différents quartiers, découpé selon les différents axes circulatoires. Donc on a la cité ouvrière ou cité meunier, la pièce aux chats, les deux parcs, le Luzard, le bois de la Grange, la ferme du Buisson et la remise aux fraises. Donc ça ne se voit pas sur la carte, mais en fait, plus on s'éloigne de la Marne, donc plus on va vers le sud, plus on monte en relief, on s'élève dans la hauteur. Donc la construction de la ville s'est faite en deux phases principales. D'abord au XIXe siècle, avec l'installation en bord de Marne des industries meunières, donc d'abord la pharmacie puis le chocolat, afin d'exploiter les capacités hydrauliques du cours d'eau. Puis dans les années 70, avec le développement des villes nouvelles, lesquelles avaient pour but de désengranger les agglomérations et de proposer une organisation spatiale basée sur la critique des grands ensembles des années 50. Donc c'est dans ce contexte qu'a été créée, construite la ligne RER, qui passe, elle, donc sur les hauteurs. Donc la différence d'urbanisme entre les étapes de développement de la ville est notamment visible au niveau des quartiers de la cité meunier et du Blizzard, puis aussi au niveau de la remise aux fraises. Donc on constate que la cité meunier a été construite selon le principe du paternalisme entrepreneurial, donc comprenant des logements et des structures pour les ouvriers, comme les réfectoires, écoles, bains publics, maisons de retraite, etc. Et la ville s'est organisée selon une architecture identique. Donc on voit bien, toutes les maisons sont pareilles. Et des rues à la romaine, aérées pour favoriser l'hygiène. Donc la famille Meunier est également à l'initiative de la construction de la mairie. Ensuite, plus on... vers les années 50, il y a le développement du quartier de la Pièce aux Chats, où on a plutôt une structure en grands ensembles, avec des tours. Je n'ai pas mis de photos. Et enfin, dans les années 70, donc, on retrouve le principe de la construction sur dalle des villes nouvelles, donc avec ici le quartier du Luzard. Donc en fait, l'implantation de la ligne RER a provoqué un décentrement de la ville, justement vers les hauteurs, vers le quartier du Luzard. Et ensuite, la ville a continué à s'étendre vers la remise aux fraises, en lotissement. Donc on voit un peu sur la carte que les rues sont plutôt en impasse, et voilà, c'est plutôt des quartiers pavillonnaires. Donc la phase d'expansion, l'expansion urbaine des années 70 s'accompagne d'une expansion démographique. Donc on peut voir que dans les années 60-70, on était encore autour de 2000 habitants, et à partir des années 90, on dépasse les 15 000 habitants. Donc en 1963, l'usine de chocolaterie cède les logements à des promoteurs qui les revendent à l'unité. Et les bâtiments de la chocolaterie appartiennent aujourd'hui à Nestlé, qui en a fait le siège de sa division France. Donc la cité ouvrière aujourd'hui est quartier le plus bourgeois, ce qui s'explique par un phénomène de gentrification. Donc les classes aisées se réapproprient les espaces autrefois populaires. Et du coup, la ville s'organise selon une opposition entre la cité meunier, qui est aux limites de la commune, et la ville nouvelle qui a été construite dans les années 70, qui est plutôt constituée de logements populaires, puisqu'on y retrouve environ 45% d'HLM. Donc ensuite, sur le plan politique, les membres de la famille Meunier se sont succédés au poste de maire jusqu'en 1980. Depuis cette date, c'est M. Daniel Vachez, membre du Parti socialiste et ancien syndicaliste de l'usine, qui occupe cette place. Il faut savoir que seule la moitié de la population noisilienne en âge de voter est inscrite sur les listes électorales, et que l'abstention s'élevait à 55% aux dernières élections municipales. Lors des élections de 2008, une liste sans étiquette s'était présentée pour contester le fief socialiste, et elle était composée notamment d'une personne à l'initiative de notre commande, à savoir Patrick, qui est actuellement administrateur de la MJC. En ce qui concerne l'organisation de la ville aujourd'hui, bien que la mairie donc soit toujours au niveau de la cité Meunier, le centre-ville correspond plutôt au quartier du Luzard. C'est là qui est concentrée la majorité des équipements, donc la MJC. On y trouve aussi le Trésor public, le Conservatoire de musique, des restaurants, des commerces, et bien sûr la station RER qui a conduit au décentrement. Alors cette ligne horaire relie Paris à l'ouest et le parc Disneyland vers l'est. C'est également le lieu où se tient le marché. Donc c'est un marché qui est à la fois alimentaire et textile. Et il a lieu les mercredis et vendredis après-midi, ce qui est plutôt rare pour un marché dans l'est parisien. Donc ce cas du marché nous a particulièrement intéressés parce qu'il concentre et illustre un certain nombre de tensions sociales de la commune. Donc il y a notamment des tensions entre les personnes issues des classes moyennes qui déposent leurs enfants au conservatoire et les classes populaires qui fréquentent l'espace parce qu'en fait, au niveau du marché, il n'y a pas de parking, il n'y a rien pour se garer, donc il y a des tensions. De plus, comme c'est un marché d'après-midi, il attire des personnes et des maraîchers qui ne viennent pas forcément de la commune, mais qui viennent vraiment de... Ça draine vraiment tout le bassin parisien. Et du coup, en fait, les élus locaux ont plusieurs fois limité l'emprise du marché, justement pour favoriser leur électorat de classe moyenne. Donc pour conclure cette première partie, je vais évoquer quelques définitions et poser quelques dates. Donc la MJC de Noisiel a été créée en 1988 et possède l'agrément centre social délivré par la Caisse d'allocation familiale. Une MJC, donc Maison de la Jeunesse et de la Culture, a pour objectif la responsabilisation et l'autonomie des citoyens à travers des activités associatives comme la danse, la musique, les arts plastiques. Elle a la capacité à réunir et mettre en mouvement des citoyens et à développer des initiatives. Les MJC ont pour objectif de lier jeunesse et culture dans une perspective d'éducation populaire. Et enfin, je conclurai en disant que les centres sociaux ont des objectifs relativement similaires à ceux des MJC. Voilà, on va passer maintenant.
Donc nous allons maintenant vous présenter un petit peu la méthodologie de cette enquête collective et donc comment celle-ci a été mise en place. Donc cela va se diviser en trois sous-parties. Donc premièrement, nous allons vous parler du contexte de cette semaine de stage et du fait que nous étions en totale immersion sur nos terrains. Ensuite, nous vous expliquerons comment nous nous sommes organisés collectivement pour répondre à cette commande. Et nous terminerons par la construction de notre réflexion et le choix des thématiques pour la restitution. Donc durant toute la semaine, nous avons été en totale immersion au sein de la ville de Noisiel, du fait, premièrement, que nous étions logés chez des habitants. Donc nous étions pratiquement tous en binôme dans nos familles, et ils ont en quelque sorte été nos premiers enquêtés et nos premiers contacts. Donc tous les hébergeants étaient proches de la MJC et du monde associatif en général, donc soit par la pratique d'activités au sein de la MJC, soit parce que leurs enfants y pratiquent eux-mêmes des activités et des loisirs. Donc ce qui fait que nous étions immergés dans l'enquête. En effet, nos hébergeants nous ont permis d'avoir nos premiers contacts et d'avoir une première approche de la MJC et des réseaux qu'il pouvait y avoir entre cette MJC et les différents habitants. Donc l'immersion nous a permis de nous rendre compte de certaines choses qu'on n'aurait pas forcément vues autrement, notamment sur le fait que la ludothèque, qui était pourtant une antenne de la MJC, était assez excentrée géographiquement par rapport à celle-ci. Donc toutefois, le fait d'être en immersion, et notamment dans des familles, nous a demandé un certain contrôle de nos propos. Lorsque, par exemple, chaque soir, on nous demandait qui on avait rencontré durant la journée, qu'est-ce qu'on avait fait, etc. Donc il ne fallait pas porter préjudice aux différents enquêtés qui auraient pu avoir des propos à l'encontre certaines personnes du réseau de la MJC, car du fait que c'est une petite commune, les réseaux sont très étroits. Donc le choix de nos contacts durant toute cette semaine s'est étendu. Au départ, des contacts nous avaient été conseillés par le vice-président de la MJC. Donc c'était des gens choisis, entre guillemets, pour leur proximité avec cette MJC, ce qui pouvait constituer pour nous un biais assez fort, puisqu'ils étaient proches du monde associatif et appartenaient tous au même réseau. Donc nous avons voulu finalement avoir nos propres orientations dans la ville et diversifier nos modes d'entrée. Donc pour rentabiliser l'immersion, et cela permettait de fréquenter différents lieux de la ville, notamment les cafés, où on a pu recueillir des données par discussion informelle sur la vision de la ville par les habitants et leur utilisation des différents espaces. Donc, d'autant plus qu'on a attiré la curiosité de certains répondants, car du fait que nous étions de Limoges, ils étaient assez intrigués de notre venue et voulaient en savoir plus. En effet, élargir nos différents terrains nous a permis de diluer les réseaux déjà constitués, donc de rencontrer différents types de professions, qui avaient du coup aucun lien et aucun contact avec la MJC, et qui, par conséquent, tenaient des discours différents par rapport à des enquêtés proches de cette maison des jeunes. La dimension collective de l'enquête a été un élément très important de notre démarche. D'abord, elle nous a permis de tous mieux nous connaître et d'avoir une bonne ambiance de travail. Et ensuite, nous avons pu nous répartir sur différents terrains de la ville et donc obtenir plus d'informations et rencontrer beaucoup plus d'agents. Ainsi, nous pouvions constater des similitudes et au contraire des paradoxes dans les différents discours que chacun pouvait recueillir. L'organisation collective de notre travail a également évolué, car au départ, nous avions choisi nos terrains d'enquête dans Noisiel selon nos thèmes de mémoire respectifs. Donc au début de la semaine, nous étions plutôt seuls ou à deux maximum sur différentes thématiques, telles que les jeunes, la santé, la politique, les groupes de métal ou encore l'art-thérapie. Mais finalement, nous avons eu la liberté totale de nos terrains pendant toute cette semaine et la liberté d'organiser notre planning. Par exemple, si des entretiens avaient lieu durant les débriefings le soir, on pouvait s'en absenter pour mener nos entretiens. Donc en effet, chaque binôme pouvait planifier ses entretiens comme bon lui semblait pour aller dans différents lieux de la ville pour les réaliser. Et en même temps, on demandait aussi conseil auprès des autres groupes, de nos professeurs, et on faisait un point succinct sur ce qui ressortait des rendez-vous à chaque retour au point de rassemblement donc, qui était la MJC. Il y avait en quelque sorte des mini-enquêtes collectives dans la grande enquête collective, du fait de la diversité des terrains et des objets traités. Donc, cependant, au fil de la semaine et suite au débriefing, nous avons remarqué des convergences entre les terrains ou au contraire des impasses sur certaines pistes. Donc ça nous a amené à nous regrouper davantage en petits groupes de 3 ou 4, en fusionnant des thèmes et des terrains d'enquête, et au contraire aussi en abandonnant certaines problématiques, faute d'avoir des interlocuteurs sur les terrains, donc, par exemple pour les groupes de métal qui étaient absents des répétitions à la MJC. Mais en même temps, on a tous gardé ce cadre commun qui était d'étudier les usages sociaux de la ville et de la MJC et de recueillir différents points de vue à ce sujet. Donc cela s'est fait également dans une idée de rentabilité pour la commande, mais aussi par souci de gain de temps, puisqu'on avait une restitution le vendredi et qu'on n'avait que 4 jours pour la préparer. Nos prises de contact se sont faites parfois directement sur nos terrains, comme par exemple sur celui de la ludothèque, où lors d'une séance d'observation, on a directement discuté avec 7 mères de famille, après avoir eu 2 entretiens préalables avec la gérante de cette ludothèque. Aussi, différents prospectus nous ont permis d'avoir d'autres contacts, notamment autour du public des jeunes, pour rencontrer d'autres professionnels et d'autres membres du monde associatif. Des entretiens ont également été négociés par téléphone, avec des enquêtés connus par contact interposé. Et pour ces entretiens, cela nous a beaucoup aidé de ne pas être seuls, pour être plus à l'aise lors de l'interview et pour aussi perfectionner notre technique d'enquête, notamment quand on rencontrait des habitants plus imposants, comme les adjoints au maire ou les membres du conseil municipal. Dans l'idée de connaître la fréquentation de la MJC par les habitants de la ville, nous avons profité donc du grand nombre de personnes présentes le jour du marché de Noisiel, qui est donc un jour de grande affluence, pour passer un questionnaire. Donc ce marché, comme on l'a évoqué, est assez particulier, car il y en a peu dans l'Est parisien, et par conséquent, la population qui déambule vient d'assez loin, parfois de 20-30 km du plein Paris, ou même de communes non limitrophe à Noisiel. Donc au total, on a récolté 100 réponses. Donc, même si ce questionnaire était très rudimentaire, il nous a permis d'avoir de plus amples informations sur la ville en elle-même, mais aussi sur la MJC et sur la connaissance qu'en avaient ou non les habitants, quels lieux ils fréquentaient. Nous avons pu par exemple nous rendre compte que ce marché a un grand rayonnement dans la région. Il attire de nombreux habitants d'autres communes, puisque seuls 36,4% des répondants habitaient la ville. Donc, toutefois, la passation du questionnaire n'a pas été sans difficulté, puisqu'on a eu quelques noms assez catégoriques du fait que notre enquête portait sur la MJC de Noisiel. Donc, pour mettre en lien toutes ces informations récoltées durant ces 4 jours, nous avons profité des différents débriefings donc, pour construire notre réflexion et mettre en forme notre présentation. Donc, nous nous sommes concentrés sur certaines thématiques et notions qui revenaient vraiment de manière récurrente dans les discours. Par conséquent, nous avons naturellement laissé de côté nos sujets de mémoire et les fausses pistes qu'on pouvait avoir. Donc ainsi, notre réflexion s'est construite autour de plusieurs axes principaux. Donc, dans un premier temps, on a rappelé les politiques de la ville, car celles-ci sont vraiment au fondement de certaines catégories de pensée, et on les a vraiment beaucoup retrouvées dans nos entretiens. Donc on a voulu préciser qu'elles n'allaient pas de soi, qu'elle renvoie à des nouvelles formes de traitement des problèmes sociaux et urbains qui ont pris forme à l'échelle locale, avec de nouveaux principes justement pour résoudre ces problèmes, comme par exemple celui de faire participer les habitants à la ville. Donc le traitement de ces problèmes a par la suite donné lieu à la décentralisation, qui a donné de nouvelles compétences aux collectivités territoriales pour agir sur l'urbain, et cela a donc amené le domaine associatif à composer avec les habitants. Également, le lieu même de la MJC nous a posé question, car étant donné ces différentes appellations, les habitants ne pouvaient pas s'identifier au lieu, du fait également que la MJC se veut uniquement pour les habitants de Noisiel. Donc au cours de l'enquête, l'idée de mixité sociale également et l'idée de vivre ensemble, ces deux termes-là sont revenus dans énormément de discours, alors que finalement dans les faits, la mixité n'était pas forcément visible, ce qui pour nous a fini par constituer le cœur de notre enquête. Donc notre réflexion s'est portée sur cette notion que nous avons voulu déconstruire et connaître les raisons qui ont fait que sur nos terrains, nos enquêtés nous manifestaient plutôt un entre-soi, entre les populations, et cela semblait justement en opposition avec les buts revendiqués par les politiques et par certains habitants de milieux plus favorisés. En effet, certains d'entre eux déploraient ce manque de mixité sociale dans certaines activités proposées, et en même temps, ce sont les mêmes personnes qui disaient ne pas vouloir laisser leurs enfants dans des endroits trop fréquentés par une population issue de l'immigration. Le troisième et dernier point que nous avons souhaité développer durant le stage a été la question de la fréquentation de la MJC en termes de catégorie d'âge. Donc, en lien avec la commande sur les usages de la MJC, on avait été frappé par la faible fréquentation de cette structure par les jeunes au-delà de 15 ans et par les jeunes adultes. Donc, en effet, pourtant appelée maison jeune, seuls quelques-uns d'entre eux venaient le midi pour manger leur sandwich dans la cafétéria. Et ce dont d'ailleurs se félicitaient les agents de la MJC qui étaient contents d'avoir quelques jeunes, car Noisiel est elle-même une commune jeune. Donc selon eux, il y avait, je cite, « aucun lycéen. Maintenant, il y en a 200-300 et on veut aller vers eux. » Donc suite à ça, nous nous sommes demandé si le terrain de la ludothèque pourrait constituer un tremplin vers la MJC pour les jeunes parents et quelles raisons amenaient les jeunes à se maintenir à l'écart de cette MJC qui n'était pas pour eux. En effet, la plupart qu'on a interrogés, qui étaient non diplômés, ne se sentaient pas à leur place et manifestaient une certaine distance vis-à-vis des activités proposées, ce que nous avons pu traduire par une forme de violence symbolique. Donc, nous avons pu constater certaines tensions dans l'appropriation de ce lieu par cette catégorie d'âge, puisque ceux fréquentant la MJC provenaient surtout de milieux plus favorisés et de lycées généraux. Donc une commande étant différente d'une enquête universitaire, il a fallu aussi agencer la commande de façon à ce qu'elle soit à la fois sociologique et accessible par tous, ce que va développer mon camarade.
Merci. C'est bon, vous m'entendez ? Ouais. Alors moi, je vais plutôt parler de comment nous avons réussi à transformer une commande en objet sociologique. Parce que revenir sur la méthode, d'accord, c'est bien, mais ça a plus de sens si on transforme justement l'objet de la commande en objet sociologique. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler les termes de la commande. Alors, elle nous a été faite officiellement à l'Université de Limoges mi-octobre ou fin septembre par Patrick, donc administrateur et vice-président de la MJC, qui est appuyé par l'ancien directeur Denis. Oui, ancien, parce qu'il est parti depuis, après notre enquête. Voilà. Mais on ne sait pas à cause de nous, hein, je le dis tout de suite. Hein. Voilà, c'était mûrement réfléchi avant, donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Donc la commande s'est déclinée en deux points. Tout d'abord, comme le disait Martin Thibault en préambule, on nous faisait part de problèmes particuliers qui affectaient la MJC en question. Donc l'absence ou la très faible participation d'une partie de la population. Le personnel de la MJC se demandait notamment pourquoi les gens ne participaient pas plus aux activités et à la vie, entre guillemets, de cette institution. Alors, dans cette perspective, la commande nous incitait à tenter d'expliquer plus particulièrement la non-venue des jeunes, entre guillemets, et des familles à revenus les plus faibles, entre guillemets, et pour reprendre les termes que nous avons entendus là-bas. Donc ça ne vient pas de nous non plus. Et notamment en raison, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'agrément de la CAF pour le statut de centre social. Alors, dans un second temps, on nous faisait part d'une non-rencontre, ou plutôt d'un manque d'échange entre générations et entre cultures lors des activités proposées. Effectivement, la commande entendait questionner ce qu'elle estimait être une insuffisance quant à la mixité sociale et culturelle dans le fonctionnement quotidien de la MJC et des associations qui lui sont attenantes. Alors là aussi, on peut encore revenir sur le terme de mixité sociale, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça peut inquiéter les milieux populaires pour certaines, pour certaines activités, mais quand une salle, il n'y a pas de mixité sociale dans une salle qui, voilà, où il y a une représentation d'un concert de jazz, là, on s'en fout un petit peu, si je suis un peu méchant, mais voilà. Donc on s'inquiète d'une mixité sociale dans une MJC parce qu'on accueille plutôt des populations, des milieux populaires, mais quand c'est dans un, pendant un concert de jazz où c'est plutôt pour un public petite bourgeoisie, on s'en fout un petit peu de la mixité sociale. Désolé d'être un petit peu vulgaire. Voilà. Donc outre le fait que répondre à ces questions en un temps réduit constituait déjà en soi une difficulté pour nous, il nous est apparu que raisonner exclusivement dans les termes posés par la commande impliquait peut-être plus la restitution d'une boîte à outils et des propositions pratiques que la formalisation d'un raisonnement plus sociologique. Alors il n'était pas question pour nous de renier la sociologie critique, parce que voilà, puis si on l'avait fait, je pense qu'il y avait deux personnes qui nous auraient, qui auraient mis le holà assez vite. Et voilà, je ne vous désigne pas. Voilà. Or, le questionnement sociologique, c'est d'abord observer, prendre le temps de la compréhension d'un espace social, même dans un temps très court, voir les types de raisonnements, de contacts qui se nouent dans un espace social. Alors, le temps de l'observation permet de saisir des points d'achoppement, des choses qui posent question et qui cristallisent des nœuds d'interrogation. Quant à la commande, si nous avions suivi cette commande à la lettre, il nous semble, comme je l'ai dit, qu'on était plus là dans un travail d'expertise, qui entendait trouver des moyens techniques d'attirer des publics qui désertaient, jusque-là la MJC. Donc pour nous, c'était mieux de prendre de la distance avec la commande afin de produire un questionnement plus sociologique. Et que ça nous a amené en fait, à réfléchir en premier lieu sur les raisons de la formulation de cette commande par la MJC. Alors comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme ça a été dit en chapeau introductif, il y avait vraiment une question de fonctionnement en fait, de la MJC en elle-même qui était sous-entendu dans la commande, voilà, notamment pour l'attribution de subventions par la municipalité. Et ça, on peut l'accentuer du fait que pendant que nous étions là, on commençait justement à préparer des dossiers pour avoir des subventions de la municipalité. Donc c'est là où on voyait vraiment que nos commandes pouvaient leur servir assez directement. En effet, donc lors de notre venue, la MJC était prise justement avec les renouvellements de son agrément auprès de la CAF. Et le rendu de l'enquête devait donc, entre autres, participer à assurer la continuité des fonds financiers dont cette institution dispose. Et cela souligne le caractère potentiellement politique et donc délicat de la requête. Dans cette perspective, être assuré d'attirer des publics, c'est aussi certifier auprès des pouvoirs locaux que la MJC est finalement une institution qui compte localement. En outre, construire la commande en objet sociologique nous a amené à opérer un certain déplacement de la population auprès de laquelle nous enquêtions. Et effectivement, notre regard se portait tout autant sur les membres de la MJC que sur les populations qui rentrent dans son giron et ceux qui ne venaient pas, évidemment. Alors, travailler sur la commande à travers le prisme d'une approche sociologique nous a amené autant à réfléchir sur les ressorts sociaux, de l'investissement associatif et militant des individus actifs au sein du maillage de la MJC, que sur les publics qu'elle entend attirer et accueillir. Nous avons donc pu constater qu'il voulait comprendre pourquoi la population jeune ne venait plus. Or, si l'enquête nous a aidé à réfléchir à cette question et à produire des hypothèses concernant cette désertion, nous avons observé que la question jeune, entre guillemets, est au principe d'une tension entre les membres de la MJC. Cela nous a permis d'éviter des biais d'un regard trop enchanté sur le monde du travail social et associatif, en réfléchissant notamment aux conflits qui existent au sein des associations potentiellement portées par une mission entre guillemets altruiste. Alors on peut prendre pour exemple l'observation que nous avions faite et les entretiens que nous avions faits avec Nathalie à la ludothèque, où justement la gérante de la ludothèque avait vraiment un discours très enchanté sur son travail. Très enchanté sur son travail. Voilà, c'était merveilleux. Les gens participe aux activités, c'était génial. Voilà. Et puis, d'un autre côté, elle n'avait pas hésité à placer quelques scuds envers certains responsables de la MJC. Et quand elle s'est rappelée qu'en fait, on enregistrait l'entretien, elle nous a demandé d'arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc ça, je dis ça pour certains licences qui sont là. Faites gaffe. C'est jamais. Voilà. Donc, en essayant de ne pas trop prendre pour argent comptant les discours de cette institution, nous nous retrouvions aussi dans une posture qui suscitait certaines inquiétudes avant, pendant et après le travail de la commande. Donc, voilà. Donc, déjà, lors de l'annonce de la commande, pour nous, la commande, c'était un travail inédit, déjà pour nous. Donc, voilà. C'est une première inquiétude déjà pour nous. Et puis, il y a eu l'annonce. Évidemment, donc ça a suscité certaines inquiétudes, notamment quant aux enjeux d'enquête et de recherche sur des institutions qui travaillent auprès des milieux populaires. Nous, on voulait vraiment éviter certaines représentations de ces groupes sociaux marquées par la valorisation unilatérale de leurs pratiques culturelles, militantes, etc. Mais aussi éviter de dresser la constatation sans appel d'une domination sociale. Nous avions exprimé quelques craintes concernant l'impossibilité de pouvoir effectuer pleinement notre travail sociologique, mais comme on l'a vu tout à l'heure, nous avions eu carte blanche. Donc voilà. Comme rappelé précédemment, en fait, nous avons cherché à avoir d'autres contacts que ceux donnés par Patrick. Voilà, pour pas être muselé méthodologiquement et pouvoir un peu faire ce qu'on voulait sur place. Et aussi, nous, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le questionnaire, on a réussi à émanciper aussi notre champ d'action. Voilà. Faut aussi rappeler qu'au début, nous travaillons sur le terrain en fonction de nos propres terrains d'enquête. Bon, on a tout de suite vu que ça ne marchait pas, donc voilà. Mais c'était vraiment pour montrer que on pouvait diluer les contacts grâce à ces différents terrains qui pouvaient s'offrir à nous sur place. Alors, la dernière crainte de la commande était plutôt l'utilisation qui pouvait être faite de notre travail a posteriori. Comme mentionné avant, nous n'avions pas vocation à donner des moyens techniques pour attirer un public qui ne se rendait pas à la MJC. Alors ça, on l'a dit pendant aussi la restitution, mais apparemment, ça passait pas du tout. Pour eux, c'était une boîte à outils et voilà, il fallait se servir de notre travail pour faire quelque chose. Ce faisant, nous ne voulions pas que cette enquête puisse servir à justifier des réductions financières ou d'effectifs au sein de la structure, comme on l'a vu tout à l'heure avec la ludothécaire qui voulait qu'on coupe l'enregistrement. Voilà, elle avait une crainte de perdre son emploi aussi, mais ça, c'est pas notre but non plus d'être de casser des emplois. Ou... Voilà, on n'est pas là, hein. Pas encore. Ça viendra un jour. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Et puis, pour anecdote, en fait, il s'avère qu'un emploi a été créé après notre venue. Alors, on n'est peut-être pas responsable de ça, mais... L'honneur est sauf. L'honneur est sauf, voilà. Ils ont perdu un directeur, mais ils ont créé un emploi. Donc c'est... Je ne sais pas s'ils ont gagné au change. Hein. Voilà. Il faudrait retourner là-bas, d'ailleurs, pour savoir. Donc, on ne voulait pas non plus que notre travail soit trop violent, enfin, les résultats de notre travail soient trop violents pour les responsables, pour les gens travaillant à la MJC. Dans son contenu et dans sa formulation. On ne voulait pas remettre en cause les positions des individus, mais plutôt comprendre les logiques qui leur sont inhérentes. Et c'est en cela que nous étions dans une position d'équilibriste, en fait, entre d'un côté pouvoir faire de la sociologie critique, voilà, ce qu'on apprend depuis 4 ans maintenant, et de l'autre, de ne pas heurter, en tout cas pas trop, hein, on reste gentil quand même, nos enquêtés. Nous ne voulions pas représenter pour eux un danger concernant leur place au sein de la structure. Voilà. Et à cet égard, la question de la restitution orale s'avéra particulièrement délicate en soi.
Bien, merci. Alors, donc, aborder l'analyse de la restitution de notre enquête va nous permettre, en premier lieu, de détailler toutes les difficultés que nous avons rencontrées lors de la préparation de cette restitution. Mettre en avant les soucis que nous avons rencontrés lors de cette préparation nous semble important pour souligner que ces difficultés risquent d'être rencontrées lors de chaque enquête sociologique résultant d'une commande et où les commanditaires attendent un rendu. Commande qui est, nous avons pu le voir précédemment avec mes camarades, l'une des premières difficultés que nous nous devons d'aborder. Comme autre difficulté, nous pouvons également citer le manque de temps, puisque nous n'avons eu qu'une semaine, donc même 5 jours, afin de faire l'ensemble de l'enquête. La préparation de notre restitution, du coup, a été bouclée le dernier jour, le vendredi, peu avant l'horaire fixé, en ayant voilà, quasiment fini la dernière minute, ce qui nous a laissé que peu de temps en fait, pour nous mettre en phase avec le discours que l'on voulait prononcer. Nous pouvons également citer comme autre difficulté le contenu même de la restitution. Nous étions tiraillés et nous pensons que cela sera souvent le cas lors de chaque enquête résultant d'une commande, entre d'une part notre lecture sociologique, la lecture qu'on voulait mettre en avant que nous avons eue grâce à l'ensemble des matériaux que nous avons récoltés, et d'une part, et d'autre part, et, ce qui était attendu de la part des commanditaires. C'est pourquoi le temps de la préparation a été ainsi consacré aux choses que nous voulions absolument faire apparaître dans notre analyse, tout en veillant à ne pas être d'abord nominatif, en faisant attention aux termes que nous allions utiliser afin de ne pas être pointés du doigt, et afin aussi que les personnes qui gravitent autour de la MJC ou qui sont membres de cette MJC ne se sentent pas mises en accusation. Enfin, le simple fait de prendre la parole, qui plus est devant nos enquêtés, était en soi une source d'angoisse qui fut multipliée lors d'un court temps par la possible venue de médias locaux, le Parisien, je crois. Mais bon, on a préféré que les journaux ne viennent pas, on n'allait pas rajouter du stress au stress. Donc, cela dit, la restitution ne fut pas seulement que crainte par les étudiants. Certains enquêtés que nous avons rencontrés tout au long de notre semaine d'enquête ont ainsi exprimé leur crainte envers cette restitution lors d'entretiens individuels que nous avons menés, car ils tenaient, selon eux, des propos qu'ils jugeaient eux-mêmes comme étant critiques et pouvant, selon eux, les mettre à mal envers la MJC et envers également d'autres personnes. Cette crainte s'est exprimée pour les deux types de restitution que nous allions rendre, écrite et orale, mais surtout pour la restitution orale. En effet, ces enquêtés nous ont expliqué que les personnes qu'éventuellement elles pouvaient pointer du doigt seraient présentes lors de notre restitution, et que cela risquerait du coup de faire naître un petit conflit, un débat plus que musclé au moment de notre prise de parole. C'est pourquoi tout au long de la semaine, nous avons eu très souvent des demandes d'anonymat lorsque nous devions rendre notre recherche. Alors, nous avons pu, pour mieux préparer notre intervention et corriger ces craintes, demander des conseils auprès de deux intervenants qui ont eu l'amabilité de venir nous rejoindre durant notre semaine de stage, à savoir donc Anne Clerval et Sylvie Tissot, et qui ont pu nous dire qu'il fallait pas avoir peur. Hein. C'est pas un travail, c'est pas un travail monstre. Anne Clerval s'est voulue vraiment très rassurante en nous disant de toute façon qu'elle n'avait aucun problème à rentrer dans le vif du sujet, quitte à faire naître un débat un peu plus musclé, une opposition forte envers certaines personnes. Mais cela nous a rassurés qu'à moitié, car notamment de par notre position d'étudiant qu'on a bien voulu accueillir pendant une semaine de stage, qu'on a bien voulu héberger également, et par tout ce que mes amis ont exprimé juste alors, à savoir tous les risques, le fait possible par notre prise de parole de risquer que certaines personnes utilisent ce qu'on a mis pour imposer leur point de vue, enfin bref. Donc notre restitution a eu dans le café de la MJC. Nous étions assis sur la scène du café, bien mis en avant par la lumière, ce qui donnait à notre restitution un côté vraiment un peu théâtral. En face de nous, au même niveau, donc, se trouvait le public, avec notamment au premier rang quelques adjoints à la mairie de Noisiel, tous membres du Parti socialiste, et placés de telle sorte qu'ils étaient eux bien mis en avant, on ne pouvait absolument pas les rater. Au milieu se trouvaient certains hébergeants et au fond se trouvaient certains membres de la MJC, des personnes ayant été au courant de notre institution et qui sont venues un peu par curiosité. Nous pouvons préciser que nous ne nous attendions absolument pas à l'arrivée d'adjoints à la mairie, dont la plupart, la très grande majorité en fait, ont refusé nos demandes d'entretien et que nous n'avons pas vu du stage. Bien. L'introduction de nos enseignants au moment de notre restitution fut un moment clé qui se voulait comme un passage pouvant désamorcer les quelques attentes du public, mais aussi les quelques craintes. en rappelant que notre travail s'inscrit avant tout donc, dans une analyse sociologique et donc de déconstruction de l'objet et d'une analyse objective. Nos enseignants ont pris la parole pour bien préciser que notre travail ne s'inscrit pas dans une optique de donner voilà, des outils ou des conseils, en citant notamment cette phrase de Robert Castel, un bon diagnostic ne suffit pas à soigner, mais un mauvais peut suffire à tuer. Bien, donc, à la fin de notre présentation, le moment plus redouté qu'attendu de la discussion a pu commencer et révèle certains points qui sont assez intéressants. La discussion que nous avons eue permet de voir déjà tous les points que nous avons abordés dans notre présentation, mais qui n'ont pas été abordés au moment de la discussion, et notamment deux points. Alors, le premier point qui a été consacré sur les politiques de la ville, et le second cas sur tout le terme de mixité sociale que nous avons entendu tout au long de notre enquête. Alors le fait que l'on n'ait pas pu aborder ces thèmes lors de nos discussions nous a fait au début poser la question de savoir si l'ordre de nos interventions au moment de la présentation était cohérent, puisque la partie consacrée aux politiques de la ville, qui était très fournie, très longue, est venue en fin de présentation, à un moment presque de décrochage collectif du public. Et nous nous posons donc la question de savoir si le public n'a pas pu suivre cette partie, dont certains, après la discussion, nous ont dit que le vocabulaire très spécifique ne leur a pas permis de tout comprendre. Cependant, on peut également se poser la question de savoir si justement ces parties autour de la politique de la vie et de la mixité sociale n'ont pas été volontairement omises par le public afin de ne pas se diriger vers justement une discussion qui soit beaucoup trop conflictuelle et qui du coup peut éviter à certaines personnes de se mettre en avant. Quand je parle de certaines personnes, je parle avant tout des adjoints à la mairie de Noisiel qui ont, durant toute la discussion, presque monopolisé la parole. Et ce sur quoi ils ont monopolisé la parole a été surtout sur le cas de notre partie qui était consacrée aux jeunes et sur leur non-fréquentation de la MJC qui était un des thèmes les plus importants de notre commande, mais qui est aussi un des sujets qui prête le moins à la polémique. Plutôt sur la défensive, les adjoints de la mairie ont notamment deux adjoints en première ligne pour vouloir récupérer le siège de maire de Noisiel. Je vous rappelle que le maire il est en date depuis 80, donc ça date un petit peu quand même. On a enchaîné les prises de parole pour défendre d'abord toutes les initiatives qui ont été à la charge de la mairie, donc notamment tout ce qu'on a énuméré, notamment la création de tracts, d'affiches dans les arrêts de bus, de courriers au lycée, également la création d'une page internet censée, selon eux, faire jeune. Et puis ont tenu à préciser qu'il était, selon eux, impossible de faire plus, notamment en matière de financement. Parler du cas jeune a sans doute été perçu par les adjoints comme une critique adressée à la mairie, ce qui nous pousse à rappeler que c'est la mairie qui accorde les financements à la maison de la jeunesse, la maison des jeunes et de la culture. Un des adjoints a dit que la mairie faisait déjà bien assez de choses et que c'était aux jeunes de devoir se responsabiliser. Et un autre adjoint a surenchéri par la suite en disant qu'il n'avait pas besoin dans sa jeunesse d'une MJC pour pouvoir avoir une enfance réussie, puisqu'il se rendait notamment au conservatoire où il pratiquait du sport. Il a ensuite continué en disant que ce serait finalement aux jeunes de devoir se responsabiliser, que ce n'est pas la mairie qui fait mal son travail, mais bien les jeunes qui refusent de saisir les moyens mis en œuvre. Cela dit, on pourra toujours questionner la pertinence de la présence d'un point information jeunesse dans les locaux de la police municipale de la ville. Donc la discussion a continué autour du cas jeune et a dérivé sur une concurrence autour du problème jeune. Toutes les questions sur la diversité sociale, sur la représentation de ce que font les jeunes de la MJC n'ont pas été abordées. Et nous avons presque été amenés à parler des jeunes comme étant un groupe homogène, donc sans S, la jeunesse sans S, hein, au singulier. Et nous avons donc été pris au jeu des spectateurs en parlant sans vraiment toucher le fond du problème, même si nous avons quand même tenu lors de notre présentation à dire ce que nous voulions absolument, absolument faire paraître. Donc la monopolisation, voire même la confiscation de la parole par les élus, indique qu'il est possible que la venue de ces personnes qui représentent l'ordre local trouve sa raison dans l'importance de devoir défendre à la fois la position et le point de vue institutionnel. Venir permet ainsi de répondre aux analyses d'apprentis sociologues pouvant, avec des analyses qui passent sans doute pour des critiques, et permettre de maintenir à la face et de pouvoir garder des positions établies. Confisquer le discours permet également aux élus de mieux orienter la discussion sur les parties les moins polémiques, et notamment sur la partie la moins critique de notre analyse. Car si bien sûr nous étions, comme je l'ai dit, un peu anxieux par rapport à notre discours, nous avons quand même tenu à mettre en avant les choses essentielles. Cette discussion marque également la volonté de diriger les étudiants afin de mieux pouvoir manipuler notre discours et de s'en servir notamment pour défendre le point de vue propre des acteurs présents. Quelques personnes attendaient vraiment de pied ferme notre restitution, telle une boîte à outils ou tel le moyen afin de défendre les prises de parole qui tiennent tout au long de l'année et toutes les actions qu'ils ont pu mener tout au long de l'année, surtout en ce qui concerne la MJC. Nous pouvons donc souligner comment l'on doit prendre en compte le décalage entre la commande qui nous a été formulée d'une part et d'autre part l'enquête sociologique que nous avons souhaité mener tout au long de notre semaine d'enquête. Il est important, notamment au moment de la restitution, de pouvoir garder la face envers les personnes que nous avons rencontrées tout au long de la semaine et les personnes qui ont tenu à répondre à notre intervention, et de savoir contrer toutes les réflexions qui seront formulées au moment de la discussion. La difficulté de l'exercice de la restitution peut être mesurée selon plusieurs critères, qui peuvent être le manque de temps, la présence importante de personnes dans le jeu politique local, le simple fait d'avoir et de devoir parler devant des gens que l'on a rencontrés toute la semaine et qui s'attendaient peut-être pas à ce genre de discours. Par manque d'habitude aussi face à des personnes sachant mettre en avant leur parole, notamment les adjoints à la mairie, il est peut-être plus difficile, notamment en tant qu'apprenti sociologue, de devoir défendre son propre point de vue. Ce qui est intéressant aussi par rapport au moment de la discussion, c'est tous les moments qui ont été juste après la fin officielle de notre intervention. Ce qui est important, c'est de pouvoir noter toutes les discussions que l'on a pu avoir lorsque certaines personnes sont parties, notamment les adjoints à la mairie de Noisiel. Beaucoup de personnes n'ont ainsi pas pris la parole lors de la discussion officielle, notamment les hébergeants, mais aussi quelques responsables de la MJC. Mais nous avons pu par la suite poursuivre de façon informelle nos discussions sans le contrôle social exercé par les acteurs lors de la discussion. Et ce qui a sans doute permis de libérer une parole qui aurait été surveillée, scrutée et potentiellement réutilisée par d'autres acteurs. Ces discussions informelles furent ainsi un moment privilégié afin de critiquer les élus et de la mairie, soulignant leur incompétence tout en les qualifiant de noms d'oiseaux, pour rester poli. Donc nous avons voulu faire transparaître beaucoup de choses dans notre restitution orale, mais le moment de la discussion nous fait poser la question de savoir si tout ce qu'on en a voulu dire a bien forcément été pris en compte par les personnes qui nous ont écoutés. Si le déroulé de la restitution ainsi que les discussions que nous avons eues montre que cela s'est passé sans heurts, dans une ambiance assez saine et sans conflit, tout ceci cache aussi une imperméabilité de notre analyse. Une des hébergeantes, par exemple, que nous a confié un peu plus tard, a confié un peu plus tard à des enseignants, sa croyance en la mixité sociale et la volonté de continuer à travailler dans ce sens. Certains acteurs n'étaient ainsi pas dupes des logiques menées pour éviter de parler des sujets qui fâchent et du contrôle du discours. Et nous attendions avec impatience d'avoir des avis par rapport à la restitution écrite que nous avons rendue quelques mois plus tard. Le fait que nous n'ayons toujours pas reçu de nouvelles indique peut-être que les gens n'ont pas été très réceptifs aux analyses qu'on a pu leur envoyer un peu plus tard dans une forme de restitution un peu plus précise et plus longue surtout. Bien, je vous remercie. Nous vous remercions d'ailleurs tous de nous avoir écoutés. Et si vous le voulez bien, on peut commencer les discussions. Les questions.
Alors bonjour, bravo pour ce travail qui a dû être intéressant, passionnant et très formateur. Je me demandais si votre position par rapport au rôle du sociologue ou de l'apprenti sociologue, peu importe, du rôle politique, du rôle en matière de transformation sociale, de construction, de réélaboration, de segments d'institutions, de façons de vivre, etc. Est-ce que votre point de vue là-dessus a évolué lors de ce travail? Voilà, le rôle du sociologue dans, c'est un petit peu au cœur du festival aussi, critique, sociologie critique, approche critique, déconstruire et en même temps œuvrer ou participer ou contribuer à refaçonner ou reconstruire un peu différemment le monde tel qu'il est, etc. Et donc, du coup, je me demandais dans votre parcours, puis je pense que c'est une question qui peut nous interpeller ici beaucoup, si vous aviez cette année, du coup, revisité un petit peu votre position par rapport à la place de la sociologie ou de la science sociale critique.
Si tu veux. Alors répondre aux questions, c'est un exercice qui est pas très facile quand on n'a pas l'habitude. mais pour essayer de vous répondre du mieux possible, ça n'a pas vraiment fait évoluer. Alors ce qui était plutôt intéressant dans le fait justement de pratiquer un stage et de pouvoir être confronté justement à ces questions de sociologie critique et de commande, ça je pense pas que ça a remis nos idées en. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas re-questionné mes idées, mais au contraire, ça m'a plus permis de me former, justement. Et c'était vraiment un exercice qui permet juste plus de former. Et ne serait-ce que, bon, déjà, par rapport à ce que l'on pourra nous proposer par la suite, à savoir répondre à une commande, mais même dans nos enquêtes. Dans nos enquêtes de master 1 et 2 qu'on est en train de mener actuellement pour nos mémoires de fin d'études. C'était intéressant parce que le fait voilà, d'être constamment dans la pratique, ça nous a aussi aidé à nous-mêmes, par la suite, pouvoir, par contre, oui, re-questionner nos pratiques en tant qu'étudiant. Moi, par exemple, j'ai fait, comme on a eu un laps de temps très très court et que j'ai un peu de problème avec les entretiens puisque je ne suis pas toujours très à l'aise, j'en ai profité justement lors de cette semaine de stage pour faire un bon nombre d'entretiens qui finalement m'ont aidé cette année à pouvoir faire des entretiens un peu plus sereinement en fait et puis un peu plus précis. Donc au niveau de la réflexion sociologique, ça a plus confirmé en fait ce que nous avions déjà eu dans toute notre scolarité depuis la licence, mais ça a surtout été très formateur pour tout ce qui est réflexe méthodologique entre autres. Voilà, je sais pas si ça répond à votre question.
Bah, je compléterai un petit peu quand même. Disons que le fait de travailler sur une commande, en fait, ça, oui, on a revu notre manière de travailler. Parce que quand on fait un travail d'enquête juste pour un mémoire de licence ou master, bon, bah, c'est pour nous, notre directeur de mémoire, le jury et basta. Enfin, sauf si, évidemment, sur notre terrain, on nous demande de faire une restitution. Voilà, donc nous, on a encore eu là l'exemple pour Marion et moi. On nous a demandé sur notre terrain de l'année dernière de faire une restitution cette année. Enfin, on nous pousse à la faire. Donc justement, comme on a fait la restitution à Noisiel, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on va la faire et comment on va la faire. Donc voilà, mais c'est vrai que, bon, c'est vrai que ça, on a un peu changé, effectivement, au niveau de la méthode, parce que voilà, il y a un public qui nous lit, qui nous a écoutés, qui n'est pas forcément réceptif, à la sociologie critique, surtout confronté à des élus. Donc là, pour... Enfin, il y a vraiment ce rapport de force qui a joué. Hein. Et d'ailleurs, pendant la discussion, on est confronté à un public plutôt dominant. Et c'était pour nous la première fois qu'on était confronté à ce public-là. Donc, et justement, on a eu peur que ça puisse chauffer un peu. Ça a failli chauffer, d'ailleurs. Voilà. Avec une étudiante. Bon, voilà. Bon, ça, c'est... Mais elle n'est pas là, donc je ne vais pas parler d'elle. Donc voilà, donc on a eu quand même une manière de voir les choses différemment, effectivement, évidemment. Quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu très peur au début qu'on nous a dit vous allez faire une commande. Voilà, très très peur. C'était pour ça. Voilà.
Merci aussi et bravo pour votre travail. Je vais continuer la discussion, même si ce n'est pas forcément... Moi, c'est sociologie critique qui m'énerve. À chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour moi, toute la sociologie est critique ou elle n'est pas. Et hier, j'étais à une journée d'études à la CNAF avec des sociologues qui se sont présentés comme un peu critiques. Ils ont déconstruit les catégories de l'enfance, etc. à la fin de la, la... Ils ont déconstruit. Ils ont dit que c'était arbitraire, que c'était relatif, etc. Mais leur intervention n'a choqué personne, mais n'a pas appris grand-chose à grand monde non plus. Parce qu'il n'y avait pas d'enquête, parce qu'il n'y avait pas de fait dérangeant, parce qu'il n'y avait pas de démonstration. Ah, mais ils n'étaient pas là pour démontrer, ils étaient là pour interroger. L'après-midi, c'était une personne du Conservatoire national des arts et métiers. Alors, ce n'est pas comme Limoges, hein, ce n'est pas un haut lieu de la sociologie critique, le CNAM. Hein. C'est là qu'on accueille tous les gens les plus... Enfin, qu'il faut recaser. Bon. C'est très sérieux, c'est très intéressant, mais ce n'est pas, voilà, c'est pas l'université, ce n'est pas Paris 8. Quoi. Donc, la collègue a présenté un travail remarquable sur la médicalisation du soin aux petits enfants. Et elle a fait face à tout un tas d'objections dans la salle parce que les directrices de crèche, les éducatrices de jeunes enfants n'étaient pas d'accord. Parce que ce n'était pas médical, c'était une logique de soin. Ce n'était pas médical, on s'intéressait au développement psychomoteur, appellation très particulière pour parler du développement de l'enfant, mais... Moi, j'en vois tous les jours des épidémiaux, ils parlent toujours de développement psychomoteur, pas de développement. Bon. Et puis, de toute façon, on s'intéressait au développement normal et pathologique, comme quoi tout ça n'était pas médical du tout, se rendant même pas compte que tout leur discours était construit avec des termes qui viennent de la médecine. Mais voilà, donc ce que je veux dire par là, donc la collègue du CNAM, elle ne faisait pas du tout une intervention qui se présentait comme critique, et pourtant, parce qu'elle avait des choses à dire, bah, son point de vue était... De fait, critique, parce qu'il allait... Et elle disait une autre chose qui a été critiquée aussi, c'est normal, tout est, c'est normal, vous construisez des savoirs qui se distinguent des savoirs familiaux, domestiques, sur comment on éduque son enfant, parce que vous êtes tellement, vous avez été tellement dévalorisé dans l'histoire de votre profession que vous avez besoin de vous distinguer dans vos savoirs professionnels. Et alors les gens, mais non, mais on peut partir des savoirs des gens aussi. Enfin, il y avait une dénégation très très forte, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que c'est... Toujours, le problème, quand on essaie de montrer des choses intéressantes, c'est que forcément, on fait face à des gens qui ont un autre point de vue, et puis on doit négocier avec ça. Et voilà. Et moi, enfin, c'est pour ça que moi, je trouve que la bonne sociologie est critique, et que voilà, c'est pas. Bon, c'était une remarque générale, et c'était juste pour vous soumettre ça. Après, la question que je me posais par rapport à votre enquête et par rapport aux jeunes. Ils sont où les jeunes, en fait ? Est-ce qu'ils font du sport ? Est-ce qu'ils sont chez eux ? Est-ce que... Enfin, quels sont un peu les éléments que vous avez, des pratiques qui seraient un peu le contrepoint de votre enquête ? Et qu'est-ce qu'ils font, quoi, les jeunes de Noisiel ?
Oui. Alors, déjà... Pour parler de l'absence des jeunes dans cette MJC, il faut rappeler que l'ancien directeur avait un peu mené une espèce de campagne anti-jeunes, en fait, car il trouvait que les jeunes qui restaient à la MJC, qui ne faisaient rien, c'était pas bien et que ça pouvait amener des troubles. Voilà, ils avaient peur, en gros, que la petite, qu'il y ait une espèce de petite délinquance qui vienne squatter la MJC pour rien faire. Donc voilà, donc, nous on pensait que ça venait un peu de ça aussi, la désertion de cette MJC, parce qu'ils disaient oui, c'est pas pour nous, parce qu'on nous a refoulés plusieurs fois à l'entrée. Et donc nous on a vu ça aussi. Hein. Pourquoi les jeunes venaient pas ? Bah, parce que c'était pas accueillant pour eux. Parce que voilà, il y a eu ce passé là aussi. Après, ce qu'ils faisaient en dehors de la MJC, pour vous avouer, on ne sait pas du tout. Parce que les jeunes qui n'y allaient pas, on n'a pas rencontré non plus. Voilà, mais ils nous ont dit voilà ce qu'ils aimeraient qu'il se passe à la MJC pour qu'ils viennent. Donc voilà, des tracts, quelque chose de plus, enfin quelque chose d'attirant, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on les, enfin après peut-être que les personnes qui, je sais pas si le groupe de Mélissa avait réussi à montrer ce que faisaient ces jeunes-là, enfin je sais plus trop. Ouais.
Donc, merci. La plupart des jeunes qui venaient pas du tout ou très très peu à la MJC parlaient surtout de la MJC avec un âge d'or, en fait, en disant il y a un certain temps j'y allais, etc. Qui était souvent un moment où, en gros, avant 15 ans, ils n'étaient pas encore relégués du marché scolaire ou sur le marché du travail, et où, du coup, pour eux, c'était un moment où ils étaient encore relativement, comme c'était un peu les mots qu'ils employaient, mais ils se sentaient relativement insérés sur la scène locale, notamment dans les équipements municipaux. Après, du coup, c'était aussi ça qui était un peu plus difficile dans la discussion avec les élus. Alors, du coup, c'était plutôt moi qui l'avais dit parce que les élus insistaient beaucoup sur le voilà, les jeunes ne sont pas forcément méritants, s'ils ne viennent pas, alors que tout est mis en place, c'est qu'ils ne sont pas. C'est qu'a priori, on a tout fait pour eux. Bon, quand même, la plupart de ceux qui ne venaient absolument pas à la MJC étaient ceux qui étaient vraiment très en marge de toutes les institutions, qui étaient ceux qui avaient le discours le plus virulent contre la mairie, qui étaient ceux qui avaient aussi un discours très, très critique des activités de la MJC qui ne leur étaient pas destinées. Quoi. Tout ce qu'ils disaient, la MJC s'appelle aussi la Maison pour tous. La Maison pour tous n'est pas pour nous, c'était un peu leur slogan. Et puis après, effectivement, c'est là aussi qu'on voit les différentes fractions de la jeunesse. La jeunesse qui venait, alors autant à un moment, comme l'a dit Maxime, on reproche aux jeunes de venir pour ne rien faire, autant la nouvelle direction était contente d'avoir des jeunes qui venaient pour ne rien faire. Donc on disait, je me rappelle d'un jour où un des administrateurs frétillait quasiment en disant, regardez, il y a des jeunes dans le café. Alors il y avait 5 jeunes qui venaient manger un sandwich, mais qui étaient plutôt des jeunes du lycée à côté, qui n'étaient même pas le lycée technique, parce que le lycée technique, les affiches n'y vont pas, mais c'était vraiment pour le lycée général, qui étaient plutôt des jeunes du quartier qu'on voit en haut à droite, quoi, qui est le quartier de la Cité Meunier, des petits pavillons, qui sont les jeunes qui fréquentent également le conservatoire, dont les parents sont administrateurs ou ont fait des activités à la MJC, qui étaient aussi la petite bourgeoisie locale quoi, qui fréquentait davantage le lieu. Quoi. Donc on voyait bien aussi qu'il y avait des types de jeunesse qui étaient plus ou moins sélectionnés, celles qui étaient plus ou moins fréquentables. Quoi. On était content que ceux-ci viennent boire un café ou ne rien faire à la MJC, et d'autres étaient au contraire très mis à l'écart, et donc et eux l'interprétaient très fortement comme étant... voilà. La MJC n'est pas du tout un endroit pour nous. C'est vrai que Maxime l'a cité tout à l'heure. C'était très drôle dans la discussion quand même de dire aux élus qui disaient « Mais nous, on a un point information » parce que les jeunes critiquaient aussi le fait qu'il n'y ait pas de possibilité de démarche d'emploi localement à Noisiel et qu'il faille aller à Torcy ou à d'autres communes autour. Et ils nous avaient dit « Oui, mais nous, on a un point information jeunesse quoi, qui est dans les locaux de la police municipale. » Et on voit en tout petit point information jeunesse alors qu'il est marqué police municipale en très gros. Ce qui est quand même plutôt comique, quoi, effectivement, de se rendre compte que ça aussi, ça les tient très, très fortement à l'écart, vu aussi, pour un certain nombre d'entre eux, les rapports conflictuels qu'ils ont avec la police localement. Voilà, pour compléter sur les jeunes.
Je voulais savoir si vous avez réussi à émettre des recommandations pour la MJC et si elles ont été suivies par la MJC et si elles ont fonctionné. Pour justement favoriser cette mixité, pour favoriser la mixité sociale et l'accès des jeunes à la MJC.
Bah, disons que comme on a dit tout à l'heure, on n'était pas là pour leur dire quoi faire. Donc on peut montrer ce qui ne marche pas, mais on ne va pas leur dire ce qui pourrait marcher. Dans ce cas-là, on aurait pu dire... je sais pas, mettez un coup de peinture pour faire beau, mais à part ça, bon. Non, mais au niveau des activités, franchement, on pouvait recueillir les témoignages des jeunes. C'était tout à fait ça. C'est ce qu'on a fait à la restitution. On leur a dit, voilà, les jeunes aimeraient qu'il y ait telle activité, tout ça. Mais au-delà de ça, on n'était pas là pour dire, faites ceci, faites cela. Enfin, et c'est un peu le problème de la commande, c'est qu'ils s'attendaient vraiment à ça. Et je me rappelle du président qui était tout frétillant à l'idée de pouvoir, qu'on puisse lui dire. Faire ça pour avoir plus de jeunes, mais vraiment, nous, on ne voulait pas donner de conseils, et vraiment, et surtout quand on parle de mixité sociale, alors justement, comme on était un peu critique là-dessus, voilà, on n'était pas là pour donner surtout faire attention à ça, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais voilà.
Merci. Alors du coup, quand même, juste rappeler, pour nous, d'un point de vue... pédagogique, au niveau de la posture justement des sociologues sur le terrain, il était hors de question de mettre les étudiants dans une posture un peu inconfortable d'expert qui serait chargé d'apporter voilà, un manuel de bonne pratique à la fin de la semaine, ce qui n'est pas forcément entendable, même si on l'avait déjà dit en venant, qu'on l'avait déjà dit en prenant les contacts précédemment quand on avait organisé le terrain, mais ce qui était vraiment du coup difficile à entendre localement. Ce qui était surtout difficile à entendre, c'est ce que vous posez la question du coup sur la mixité sociale, c'est vraiment ça, c'était de se rendre compte que les catégories de perception avec lesquelles on travaille, Les mots qu'on utilise pour définir son activité, pour donner du sens à son travail, sont des mots qui sont socialement situés, qui remettent en cause aussi sa pratique. Et on serait bien mal venu quoi, de dire aux gens que leurs pratiques sont complètement obsolètes par moment, etc. Donc on essayait de montrer que ça ne fonctionnait pas jusqu'à un certain point et que c'était aussi à charge après des individus de pouvoir se poser des questions. Donc nous, ce qui nous intéressait, au-delà du fait de donner quand même quelques préconisations sur la production de statistiques de la MJC ou sur la fréquentation par le niveau social, pour quand même avoir une meilleure connaissance de l'absence de ceux qui ne viennent pas, parce qu'il y avait une catégorie de sans-emploi, de sans-travail, et après c'était professionnel non-cadre, donc dans les catégories c'était extrêmement flou. Et puis pareil, ils avaient une catégorie de 13-18 ans, alors qu'en gros, à 14 ans, plus personne n'allait à la MJC. Donc ça montrait bien aussi que les jeunes adultes n'étaient pas du tout présents. Ça, c'était des préconisations qu'on a pu faire. Mais après, ce qui nous intéressait vraiment, c'était de pouvoir amener les gens à se questionner aussi sur le sens de leur pratique, sans que ce soit nominatif. On avait beaucoup parlé aux étudiants, cet extrait de Bourdieu, dans l'entretien avec Roger Chartier, qui va faire une intervention au Philharmonique de Bruxelles et qui raconte que dans la voiture, la personne est très contente parce que Bourdieu vient présenter son travail et qui lui dit « mais vous ne vous rendez pas compte de ce que je suis en train de faire » et qui raconte qu'il essaye d'euphémiser à peu près son discours et que c'est un tollé énorme dans l'assistance parce que les gens sont complètement récalcitrants à son analyse. Nous, ce qui nous semblait important, c'est que voilà, ça puisse être entendable, que ça puisse pas être nominatif, que les gens ne soient pas pointés du doigt une personne ou une autre, surtout sur un petit terrain comme celui-ci, mais qu'après ça puisse être mobilisé pour réfléchir à sa pratique et forcé de constater que à l'oral ça n'a pas été entendu, ce qu'on a dit sur la mixité sociale, mais que le silence radio depuis qu'on a rendu le rapport écrit au mois de janvier montre qu'a priori non, ça n'a pas été très très bien entendu parce qu'effectivement c'est pas très ça va pas trop dans le sens du poil, ce que tu disais tout à l'heure, de ce qui était attendu, et que du coup ça remet aussi beaucoup en cause les moyens qu'on met en place, les types de discours qu'on tient professionnellement dans cette structure.
Puisqu'Hélène me passe le micro, j'aurais un milliard de questions, je crois, à vous poser sur l'objet, parce que j'ai un intérêt personnel, enfin indirect au sens professionnel, donc. Avant de poser deux questions, plutôt sur l'objet, ce que vous avez observé, moi je voudrais faire quand même une remarque, qui est une remarque en fait d'expérience. Il se trouve que moi je forme des animateurs professionnels depuis 2 ans et demi maintenant. Je suis enseignant-chercheur, sociologue, et donc j'essaye d'apprendre à des animateurs professionnels la sociologie, y compris la sociologie critique, et surtout la sociologie critique. Et ce qu'il me renvoie, je crois que ça va dans le sens de ce que disait Bertrand tout à l'heure, c'est à la fois un grand intérêt intellectuel pour cette affaire-là, mais aussi beaucoup d'interrogations sur, maintenant que vous nous avez donné tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Et je ne suis pas sûr que rabattre, peut-être, mais peut-être que ce n'est pas complètement ce que vous avez voulu dire, mais rabattre la réaction des gens, qu'il faudrait peut-être préciser, sur une espèce d'incompréhension ou une sorte d'hermétisme par rapport au discours de la sociologie critique, je crois que ça n'épuise pas complètement la question. En tout cas, ça en soulève à mon sens une autre, c'est comment s'y prendre pour que des gens qui ont en tête l'idéal de mixité sociale, avec toutes les limites que ça véhicule, bien entendu que le terme charrie avec lui-même, mais pour servir ce qu'il y a derrière cette affaire-là, comment on s'y prend ? C'est une vraie interrogation, quoi. Moi, j'ai pas la clé. Hein. Bon, voilà, c'était ma remarque. Et donc, je pose mes deux questions. La première, c'est si j'ai bien compris la mission d'expertise, entre guillemets, en tout cas de la façon dont vous l'avez récupérée, ça intervient à un moment du renouvellement du financement CNAF, ou CAF plutôt, pour l'agrément centre social. De ce que je connais un tout petit peu de cette affaire-là, c'est une démarche assez classique. Par contre, ce qui l'est beaucoup moins, c'est d'externaliser cette demande-là. J'avais une question un peu sur comment est-ce que vous avez récupéré cette espèce, voilà, comment vous avez récupéré ce diagnostic, quoi, et comment vous avez fait accepter le fait que ce soit une enquête sociologique et pas quelque chose qui reste dans cette espèce de ronron politique de la ville qui identifie des problèmes à partir des solutions qu'il prétend y apporter. Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième question, c'est vraiment une question de description. Sur le plan, depuis le début, j'arrête pas de voir qu'il y a 2 MJC. Et en même temps, quand vous dites MJC pour parler de la MJC du Lusard, de la façon que vous le décrivez, moi j'entends surtout centre social. Et donc voilà, j'aurais voulu avoir un peu de précision par rapport à ça. Ça, c'est la première de mon milliard de questions que j'aurais à vous poser sur le terrain.
Adressé, ça vous laisse le temps de, de peaufiner vos réponses sur MJC Centre Social. Comment on a fait pour pouvoir faire en sorte qu'on ait surtout cette ces marges de manœuvre pour pouvoir travailler correctement. Ça, c'était pas forcément évident. Alors, il y avait deux choses. C'est qu'à la fois, on voulait que ça ait l'air sérieux pour les étudiants et qu'ils sentent un peu le côté piégeant de la commande et qu'ils puissent un peu flipper. Donc, je pense qu'ils étaient assez suspicieux vis-à-vis de nous au départ sur cette idée de commande, comment on fait, etc. Nous, on a eu des contacts par une personne qu'on connaissait au départ, qui était un administrateur de la MJC, à qui on a proposé le projet de faire éventuellement une enquête, comme ça, sur le localement. Qui était tout à fait intéressés. Très rapidement, le directeur nous relance en disant qu'ils sont tout à fait intéressés, qu'ils sont prêts à nous accueillir, etc. Nous, on ne savait pas du tout, en fait, qu'ils avaient leur agrément au CAF, et ils nous l'ont dit le jour où on est arrivé sur place. Donc là, c'est vrai que d'un coup, c'était un peu désarçonnant. On avait essayé de donner des effets de sérieux aux étudiants, mais on ne voulait pas les faire trop flipper non plus. Là, c'était un peu loupé de ce côté-ci. Et puis, du coup, la manière dont c'est mobilisé, c'était aussi ça qui nous intéressait, la manière dont la sociologie est mobilisée par les acteurs est parfois tout à fait surprenante. Quoi. On peut anticiper. Moi, je sais que je le fais beaucoup dans mon travail par ailleurs sur comment les gens vont pouvoir recevoir les choses, qu'est-ce que ça leur fait, qu'est-ce que ça fait de lire sa propre histoire racontée par quelqu'un d'autre, en quoi c'est important de pas parler comme un sociologue pour avoir l'air d'en être un, pour que ce soit intelligible pour les gens. On peut toujours imaginer tout un tas de situations, il y a plein de choses qui nous échappent, quoi. Et là, c'est vrai que c'était assez désarçonnant la manière dont ça s'est déroulé concrètement. Et une des choses qui était la plus désarçonnante, c'était que la discussion soit autant kidnappée par les élus, parce que ça, on ne l'avait pas du tout vu venir, étant donné qu'ils n'avaient pas du tout répondu à nos sollicitations pendant toute la semaine. C'était difficile de l'anticiper de cette manière-là. Donc nous, on avait plus peur de heurter les gens de la MJC, avec lesquels on avait passé toute la semaine, de heurter les gens dans les familles, etc. Et du coup, c'est vrai que finalement, moi, d'un point de vue personnel en tout cas, j'ai trouvé que c'était finalement plus commode d'avoir les élus comme tampons, pour réfléchir, pas pour réfléchir d'ailleurs, non, mais plutôt pour dans cette opposition, quoi, de sentir aussi ce que c'est, ce qui renvoie eux en miroir dans leur position, ce qu'ils défendaient du travail de la mairie. Je pense que la discussion aurait été tout autre dans ce qu'on avait imaginé sur justement, on avait pensé ça d'abord avant qu'il y ait un rapport écrit, sur un temps oral pour discuter de la mixité sociale avec eux, parce qu'on ne voulait pas se mettre dans une position d'expert, mais on voulait que ça puisse être un vrai lieu d'échange, que les gens puissent discuter aussi de leurs pratiques, de comment ça se déroule, de tout un tas de choses qui, on n'avait pas prétention une semaine à avoir fait embrasser toute la question, de toutes les choses que les gens auraient pu rajouter. Je pense que notamment que le directeur, un certain nombre de professionnels, et beaucoup de choses à rajouter, qui étaient en plus des entretiens, et qui du coup n'a absolument pas été possible. Et donc on est venu nous dire un peu, quand on était en train de boire un verre ensuite, les personnes venaient nous rajouter un élément, nous dire là-dessus ils n'étaient pas forcément d'accord, ou là-dessus on aurait pu en discuter différemment. Mais effectivement, on n'avait pas du tout imaginé que ça pourrait se passer de cette manière-là. Et du coup, ça évitait, en fait, concrètement, le type d'échange qu'on avait pensé avec les commanditaires au départ. C'est-à-dire, on ne s'était pas du tout engagé pour un rapport écrit, parce qu'on disait, voilà, l'écrit, ça peut être très violent. D'ailleurs, ils ne nous ont jamais rappelé, c'est sûrement que c'est très violent, si d'une certaine manière. Mais l'oral, au moins, ça permet d'avoir le temps de l'échange. On a le droit de se tromper, on a le droit de revenir en arrière, et du côté des apprentis sociologues, et du côté des professionnels, et de nourrir aussi l'échange de pratique, de réflexion sur son activité. Et là, il est forcé de constater que ça n'a pas du tout été possible, quoi.
Alors, sur la question des deux MJC, il me semble qu'effectivement, au début, il y en avait deux. Et en fait, en 88, elles ont fusionné pour être uniquement celle du Lizard, mais que la MJC de la Ferme du Buisson est restée une antenne, enfin une annexe, en fait, de la MJC du Lizard. Et justement, l'annexe de la Ferme du Buisson abrite, par exemple, les locaux de la radio de la MJC, qui est une radio locale. Et justement, cette question de deux MJC a posé problème pour les rendez-vous en entretien, parce que quand on donnait, par exemple, rendez-vous à la MJC, il y a des gens qui nous attendaient à la Ferme du Buisson alors qu'on les attendait au Lizard, ou inversement, il y a eu quelques ratages au niveau des entretiens à cause de ça, justement.
Bonjour. Alors, moi, j'ai une question sur la pédagogie, en fait, auquel vous avez participé comme étudiant. Alors, il se trouve que moi, j'ai fait mes études de sociologie à Poitiers et en fait, j'avais participé comme ça à un stage de terrain, en fait, qui consistait à finalement apprendre le métier de chercheur en le faisant, en le pratiquant. Et qui était, je crois, assez... assez original, ou en tout cas il n'y avait pas beaucoup de stages de ce type là qui existaient dans les départements de sociologie. C'était en 2005, je crois, alors que maintenant à Amiens par exemple, je crois que dans le parcours il y a au moins deux stages de terrain d'organiser. Donc ça, ça s'est répandu, ça pose aussi des questions de pratiques collectives de la recherche. Il y a eu un colloque à Dijon, par exemple. Nous, on a participé à d'autres stages de ce type en Picardie, où on s'est aperçu qu'il y avait une période très stimulante au moment de l'enquête. Et puis après, c'est plus difficile sur la période de l'écriture, parce qu'on n'est plus dans ce temps collectif, ce temps à part où on fait de la recherche. Et du coup, ma question, vous avez fait un travail remarquable de réflexivité en fait sur votre enquête, mais je me demande si on pourrait pas un peu plus pousser justement cette question de réflexivité sur les effets que cette enquête a eu sur votre carrière finalement d'étudiant en sociologie. Alors, si on voulait faire de l'objectivation participante, il faudrait voir quelle est votre position par rapport aux autres personnes de votre promotion, par exemple. Alors, aujourd'hui, vous êtes 4, mais vous êtes 15 à avoir participé à l'enquête. Est-ce que, en fait, vous étiez les meilleurs étudiants et il reste en quelque sorte les meilleurs étudiants? Enfin, en quelque sorte, ça a eu un effet de confirmation ou de réalisation de vos dispositions sociales. Ou alors, il y a eu d'autres effets. Par exemple, vous êtes engagé politiquement, vous êtes militant et vous avez trouvé un intérêt politique à ce que vous faites. Ou alors, vous avez trouvé un intérêt dans votre... Dans votre orientation professionnelle. Voilà, c'est un petit peu ces questions-là que je me pose. Est-ce que vous pouvez un petit peu donner quelques éléments, en tout cas, sur les effets de cette enquête?
Alors, je vais être beaucoup plus pragmatique quant au fait qu'on n'est que 4 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui avaient la trouille, tout simplement. Voilà. Et pour relativiser, on n'est pas dans en termes de meilleurs étudiants, de promo ou quoi que ce soit. Oui.
D'avoir des enseignants qui seront là et qui vont nous poser des questions, ça fait la trouille. Hein. Surtout que, bon, déjà que nous, quand on nous pose des questions à la fac, on n'ose pas toujours répondre, mais alors devant tout le monde, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais, je t'en prie.
Mais sinon, pour compléter le travail en équipe, en fait, on ne se connaissait pas beaucoup dans la promo. Enfin, certains si, mais... C'est-à-dire qu'il y a eu des étudiants qui venaient d'une autre fac ou d'une autre filière. Donc on a vraiment découvert ce que c'était le travail collectif à Noisiel. Et du coup, ça a continué pendant l'écriture du rapport. En fait, on s'est retrouvés en petits groupes, voilà, comme on avait travaillé sur les mêmes terrains à petits groupes. Donc on continuait à travailler ensemble, voilà, et on s'aide encore sur nos terrains respectifs. Hein. Qu'on a besoin de faire un entretien avec quelqu'un ou d'emmener quelqu'un quelque part, faire une observation. Enfin voilà, on a gardé ce travail collectif. Mais voilà, pour le fait qu'on ne soit que 4 aujourd'hui, bon, voilà, je l'ai expliqué, on ne compte pas parmi les meilleurs étudiants de notre promo. Ça serait fantastique, hein, mais non, c'est pas ça. Donc voilà, les meilleurs sont à Limoges, si je puis dire. Donc voilà, donc oui, travail collectif très intéressant, on a beaucoup aimé ça. Et de toute façon, comme on va continuer en Master 2 l'année prochaine, on aura encore une enquête à faire, une semaine de stage. On ne sait pas où encore, peut-être allons-nous retourner sur les ruines fumantes de Noisiel, je ne sais pas. Pourquoi pas? Mais voilà, donc on est vraiment, on avait gardé voilà, cette dynamique collective et je pense, bah, j'espère qu'on aura la même dynamique l'année prochaine avec les futurs Master 1. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, comme je sais qu'il y a des licences 2 et 3 dans la salle, mais ils vont tous partir parce qu'ils en ont marre de Limoges, j'imagine. Ils ont été dégoûtés à vie de Limoges. Donc voilà.
Je passe le micro pour une dernière question et puis ensuite, s'il y a encore d'autres questions à la suite, je laisserai les gens s'en occuper pendant la pause puisqu'on aura une petite pause avant la session suivante.
Donc bonjour, je suis Régine Foucret, je ne suis pas enseignante, je suis de la région Poitou-Charentes du service Lien Social. C'est pas pour vous faire peur, hein? Ok? En tous les cas, pour faire du lien par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est clair que vous avez totalement raison de vous investir et de vous engager comme cela dans un projet pédagogique de terrain, parce qu'en termes de valorisation professionnelle par la suite, c'est une véritable, enfin à mon sens, une véritable valeur ajoutée. Ça, c'était ma remarque par rapport à la question d'avant. En plus, vous vous inscrivez dans la durée, puisqu'aujourd'hui, vous êtes en représentation, même si ça fait peur et c'est normal, ici à Poitiers. Moi, ma question par rapport à votre démarche, parce qu'avec la région, on mène un peu une démarche qui ressemble, puisqu'on mène une réflexion sur l'engagement des jeunes dans l'espace public, comment les jeunes s'engagent dans l'espace public. Et on travaille avec la faculté de géographie de l'Université de Poitiers, une promotion, le DU SIGMAGE, S-I-G IMAGE. Pareil pour une enquête de terrain, doublée d'une enquête par mailing. Donc il y a eu 300 passations de terrain qui ont été faites, mais ça s'inscrivait dans la durée. Ça démarrait en octobre jusqu'en janvier, suivi d'une enquête par mailing avec 1130 réponses. Moi, ma question, c'était sur l'élaboration... Ah oui, non, excusez-moi, je finis sur la démarche participative sur l'engagement des jeunes. On s'est aussi posé la question de la restitution et comment valoriser ce travail. Et ce travail d'enquête, nous avons décidé de le valoriser lors du Salon national de l'économie sociale et solidaire qui va se dérouler à Niort les 23 et 24 octobre. Donc là, on est en train de travailler avec la promotion et puis les autres groupes de travail qui sont investis sur cette thématique de réflexion d'engagement des jeunes. On est en train de réfléchir à comment valoriser tout ce travail qui est mené. Donc c'est au salon de l'ESS, vous pouvez noter dans vos plaquettes. Ma question, c'était sur l'élaboration du questionnaire. Comment est-ce que vous avez élaboré le questionnaire? Est-ce que c'était un questionnaire pour l'ensemble des gens enquêtés? Et si vous aviez ciblé un profil de gens enquêtés, vous dites des jeunes, est-ce que vous cibliez une tranche d'âge? Et puis ma dernière question, d'après vous, quelle a été la valeur ajoutée, que ce soit vous, des jeunes qui enquêtiez sur cette thématique-là?
Alors, donc, pour l'élaboration du questionnaire, il s'est décidé donc, en milieu de semaine de stage, vers 23h, 23h30 au soir. Techniquement, ce n'était pas prévu qu'on fasse un questionnaire, parce que déjà préparer un questionnaire, en fait, c'est finalement quand on veut faire déjà, nous, on a l'habitude de faire des questionnaires avec notamment des logiciels qui nous permettent justement d'analyser tout ce qu'on a pu récolter comme données tout au long de la passation du questionnaire. Mais on s'est dit qu'éventuellement, ça pourrait être intéressant si on avait le temps de faire passer un questionnaire, parce qu'il y avait certaines questions, notamment sur l'usage autour du marché, qui nous ont semblé intéressantes. Mais comme on ne pouvait pas... voir tout le monde et qu'on était assez limité en temps, on s'est dit que peut-être faire un questionnaire éventuellement, c'est justement pour essayer de voir pourquoi les gens, pourquoi certaines personnes ne fréquentent pas la MJC, ça pouvait finalement être intéressant. Et on avait profité justement du fait qu'il y avait le jeudi donc le marché donc de la ville pour pouvoir questionner toutes les personnes qui se rendaient au marché. Donc on s'est rendu sur place. Donc on a reçu effectivement donc sans réponse, mais on a eu aussi beaucoup de refus, et notamment des personnes qui refusaient vraiment de répondre à notre questionnaire parce que ça concernait la MJC et qu'il y avait vraiment des conflits d'usage autour de la MJC. Ou par exemple une des personnes, c'était la première d'ailleurs que j'ai voulu demander si elle était disponible pour faire un entretien, m'avait dit aucun problème. Elle m'a demandé sur quoi ça portait. Je lui ai dit que ça portait sur la MJC. J'essaie d'être un peu évasif, et dès qu'elle a entendu le terme MJC, elle a dit hors de question que je réponde. Elle avait dit concrètement, il nous laisse crever. Bon. Alors j'ai essayé de me demander pourquoi, mais elle a pas voulu répondre. L'élaboration du questionnaire, en fait, elle s'est... C'était une réflexion qu'on a souhaité poursuivre, et on s'est dit on essaie de faire passer le questionnaire, on essaie de voir ce que l'on peut en retirer, notamment dans une période où le jeudi effectivement on avait je pense que la plupart des entretiens avaient déjà été menés, on avait essayé de les mener les plus tôt possible justement puisqu'on était vraiment très pris par le temps, et que du coup on s'est dit plus vite on pourra faire les entretiens et mieux ce sera, parce que si on doit attendre des entretiens qui se fassent en fin de semaine et qu'après on nous appelle pour nous dire que finalement c'est pas possible pour telle ou telle raison, on essaie de faire le plus vite possible. Donc le jeudi on a eu un laps de temps un peu libre où on a pu faire passer les questionnaires et profiter de la présence du marché. Donc c'est intéressant de voir aussi comment les gens du coup se perçoivent par rapport au questionnaire. On a eu beaucoup de refus. Alors après, oui, on a ciblé en fait le public qui venait au marché tout simplement. Ni forcément les jeunes, ni forcément on a essayé de ne pas cibler et de voir un peu toutes les personnes, commerçantes ou usagers qui venaient se rendre au marché. Voilà.
Jean-Julie, tu veux répondre sur la valeur ajoutée?
Oui, pour la valeur ajoutée, c'était intéressant parce que ça nous a permis de de creuser peut-être certaines pistes et le fait justement que des gens qui refusaient de répondre, et notamment parce que ça concernait la MJC, nous a vraiment posé la question du rapport qu'ont parfois les habitants avec cette maison des jeunes et de la culture.